franceinter.fr.
N'arrête pas. Vous voyez, quand on dit 15 minutes par an. Planning, bonjour.
Bonjour à tous. Interception s'arrête rarement sur les anniversaires, sauf s'ils ont une signification particulière dans notre société d'aujourd'hui. Ce printemps, Véronique Julia est venue très opportunément nous rappeler qu'il y a 60 ans, naissait le planning familial. Au moment de sa création, en 1956, le planning portait un nom un peu plus poétique, c'était la maternité heureuse. Aujourd'hui, non seulement le planning existe toujours, mais il est très actif et on pourrait presque dire malheureusement. Car ses objectifs de départ étaient de répandre une véritable éducation sexuelle, d'aider les femmes à s'épanouir dans leur maternité, et quand ce n'était pas possible ou pas désiré, eh bien y mettre un terme de façon la moins traumatisante possible. Eh bien, apparemment, rien de cela n'est encore évident 6 décennies plus tard. Parce qu'une partie des préjugés sexistes en cours dans les années 50 le sont encore, malgré tout. Parce que la prédominance des hommes dans la plupart des structures sociales persiste, et puis aussi parce que l'apparition de nouvelles populations venues d'autres continents rend l'action du planning familial plus indispensable encore. Le planning, 60 ans de la vie d'une femme.
Interception, le magazine de la rédaction.
Est-ce que vous utilisez un moyen de contraception ? La pilule ou le préservatif ? Non. Est-ce que vous vous souvenez par hasard de la date de vos dernières règles ? Le 16 décembre. Ok, alors un moment, je vous prie. Oui ? Est-ce que vous pourriez venir ? On a une permanence d'accueil aujourd'hui à partir de 14h. On pourrait vous proposer de faire l'échographie ? Parce que pour pouvoir avorter, il faut faire une échographie qui date la grossesse. Et puis après, organiser avec vous comment vous pourriez faire pour prendre les médicaments de façon confidentielle au regard de la sécu et puis faire l'avortement. Non, c'est pour que ce soit confidentiel, on n'utilisera pas votre carte vitale. D'accord. Et mais vous avez fait un test de grossesse ? Oui, d'accord. En fait, c'est une méthode qu'on peut utiliser tôt dans le terme de la grossesse. En revanche, c'est une méthode qui se fait en deux temps. Là, vous prenez un premier médicament qui arrête la grossesse, ce jour-là, il ne se passe rien dans votre corps. Et 48 heures après, vous prenez d'autres médicaments qui déclenchent la fausse couche. Mais ce sera pas. Alors, l'avortement n'aura pas lieu aujourd'hui. Aujourd'hui, vous commencez l'avortement. Aujourd'hui, vous prendriez le premier médicament qui arrête la grossesse. Et c'est dans 48 heures que l'avortement aura lieu avec la fausse couche mécanique. Ok ? Ok, à tout à l'heure. Au revoir.
Vous faites, vous êtes salariée, Béjou ?
Je suis salariée militante ici, oui.
Qu'est-ce qu'elle veut, là ?
Elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Elle souhaite que l'avortement se fasse le plus vite possible parce que c'est pratique pour elle. Et effectivement, elle s'oriente vers une méthode médicamenteuse parce que c'est celle qu'on peut faire le plus tôt. Et c'est vrai que c'est une méthode qui demande une organisation. Donc, elle a le souci quand même qu'il y ait une confidentialité par rapport à ses parents.
Est-ce qu'elle est sur leur sécu ?
Certainement, peut-être, je ne sais pas. Ça, je ne vais pas demander. Ou qu'ils ouvrent, peut-être qu'ils ouvrent ses courriers, hein, tout bêtement. Hein. Bah oui. Et c'est vrai que si elle a le souci de pouvoir le cacher à ses parents, bah voilà, il faut quand même qu'elle ait à l'esprit que c'est une méthode active. On fait une fausse couche. Donc on n'est pas dans son état normal, enfin naturel, on va dire.
On va saigner.
On va saigner, on peut avoir mal au ventre, on a souvent envie d'aller aux toilettes. Donc si on est dans un entourage suspicieux, soit il faut s'assurer que les gens à qui on veut cacher l'avortement ne sont pas là le jour où on fait l'avortement, soit il faut trouver un endroit où on sera plus tranquille pour le faire, parce que c'est une méthode qui est assez simple, qui ne met pas du tout la vie des femmes en danger, mais c'est une méthode pour laquelle on a besoin d'être concentré sur soi.
Les cas les plus fréquents, c'est beaucoup de femmes qui font une IVG comme ça, et voilà, sans autre problème, ou c'est souvent des cas complexes, parce qu'il faut anonymiser le geste, parce qu'il y a des problèmes financiers, des problèmes de culture, de religion.
Alors, la majeure partie des femmes s'excusent de devoir appliquer ce droit. Elles nous disent qu'elles aiment toutes les enfants, comme si le fait d'avorter allait arrêter le fait qu'on aimait les enfants. Elles disent qu'elles sont obligées de choisir ça. Bah, elles se disent pas qu'elles appliquent un droit et que...
Elles sont coupables.
Oui. Et puis après, il y a ce truc de... voilà, de s'excuser et de légitimer les raisons pour lesquelles on interrompt la grossesse. Alors ici, on sait bien que ça peut être important de mettre des mots sur les choses, mais de s'encombrer la tête avec ce que la société pense qu'on est une mauvaise femme, ça nous saoule, quoi. En tant que féministe, c'est pas entendable.
Ça n'arrête pas. Vous voyez, quand on dit 15 000 par an. Planning, bonjour.
Bonjour. En fait, j'ai appelé à l'hôpital de Codève après mon dernier ventre de Miron. Donc, à propos de l'interruption d'une grossesse.
Oui. Pourquoi on ne peut pas vous prendre à l'hôpital?
Parce que là, j'en ai 14 semaines.
Oui, ne pleurez pas. On va essayer de vous trouver une solution. Vous venez juste d'apprendre que vous étiez enceinte de 14 semaines?
Non, je le savais déjà, mais comme...
D'accord. C'est... Et vous, qu'est-ce que vous souhaitez?
Donc, pour ma situation, comme je suis sans papier, je ne peux pas les garder.
Bon, est-ce que vous pouvez passer nous voir? On va faire le point sur tout ça et puis voir un petit peu comment on peut vous accompagner.
Oui, bien sûr.
Alors.
Vous pouvez me donner l'adresse?
Bah, écoutez, prenez notre numéro avec vous, puis si vous n'avez pas tout pu noter, vous nous appelez, on vous guidera.
Donc, je peux vous dire...
À partir de 14h, oui, madame.
D'accord, merci beaucoup.
Je vous en prie. À tout à l'heure.
Au revoir.
Au revoir.
Bon. Il y a de la détresse. Hein.
Il y a beaucoup de détresse, oui. Là, elle l'a exprimée tout de suite. Quelquefois, elles sont plus à distance au téléphone, et c'est ici que les choses se passent. Oui, cette femme nous dit qu'elle est sans papier, que son mari ne souhaite pas la grossesse, qu'elle est enceinte de plus de 14 semaines. Voilà, c'est... Bon, elle dit, dans ma situation, j'ai pas le choix, quoi.
Mais vous disiez, quand on dépasse le délai d'IVG, on va en Hollande, mais c'est cher, ça, c'est pas le même coût.
C'est
on fait comment?
C'est pas le même coût du tout, c'est très cher, c'est entre 500 et 800 euros selon les délais. Et puis cette femme a un gros souci, elle n'a pas de papier. Comment va-t-elle pouvoir quitter le territoire? Voilà, donc après on va voir avec elle, on va voir ce qu'elle peut faire vraiment. Et puis on suivra son choix.
Après-midi du mois de janvier, nous sommes dans la principale antenne du planning familial de Paris, rue Vivienne, dans le 2e arrondissement. L'entrée est située au fond d'une cour, un peu cachée, à l'abri des regards en tout cas. C'est au premier étage. On ne sonne pas, on rentre directement dans un vieil appartement au parquet qui craque. Dans la salle d'attente, des femmes, souvent très jeunes, quelques-unes seulement, sont venues avec leurs compagnons. Une dizaine de salariés et de bénévoles les reçoivent tous les jours. Elles répondent aussi à plus de 15 000 appels par an au téléphone. Ici, on distribue des moyens de contraception. On peut consulter un médecin aussi. On gère surtout des urgences, violences conjugales, grossesses non désirées, dépassement de délai pour un avortement légal en France. On les envoie dans ce cas-là aux Pays-Bas. Chacune ici a son histoire, mais le planning aime aussi les recevoir en groupe.
Aujourd'hui, le premier comprimé, effectivement, il va arrêter l'évolution de la grossesse et en théorie, il ne se passe rien. Alors, on dit en théorie, on va vous dire quand même d'avoir dans vos sacs jusqu'à samedi ou dimanche des serviettes parce que des fois, vous pouvez avoir des petits saignements durant ces 48 heures. Des fois, je ne sais pas combien de pourcents.
Bah, aujourd'hui, a priori, rien ne va se passer. Rien
ouais.
Du tout. Et parfois, à partir du lendemain, voilà. Ça reste exceptionnel, mais il y a autour de 5% des femmes qui commencent à avoir des saignements.
Est-ce qu'on a mal?
Quand, au moment
aujourd'hui?
Non, ouais. Jusqu'à samedi, normalement rien ne se passe.
Il n'y a pas d'effet comme des nausées ou des choses comme ça?
Vous en avez actuellement?
Un petit peu.
Donc ça risque de continuer pareil.
Ouais. Ah, ça va continuer.
Alors,
J'espère aussi que ça stoppe un peu.
Ça va pas s'arrêter dès aujourd'hui avec le premier comprimé. Bon, ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais effectivement, vous pouvez continuer à avoir vos nausées. Donc, juste pour les saignements, vous pouvez, dans certains cas, Vitalis 5%, que la fausse couche ait lieu demain.
Non, là, c'est beaucoup moins. Il y a des saignements dans 5% des cas. Et exceptionnellement, il y a des femmes qui évacuent la grossesse avant la deuxième prise. C'est exceptionnel, hein. Ça arrive. Et si ça vous arrivait, c'est pas grave. D'accord ?
Bon, je sais que ça arrive au travail, en fait.
Ouais, non, c'est pas très agréable.
C'est pas possible.
Enfin, en général, c'est exceptionnel. Vraiment très exceptionnel. Voilà.
Ça reste... Les saignements,
on est obligé de tout vous dire, puisque c'est vous qui allez gérer.
Bien sûr.
Si c'était le cas, vous rentrez chez vous et vous faites le protocole comme on va vous le décrire après. D'accord ?
Qui va se passer ce matin?
C'est la consultation médicale, c'est le moment où les femmes viennent prendre le premier comprimé. Tous les jeudis, elles prennent rendez-vous, on fait un accueil collectif, une information, pour être sûr qu'elles ont bien compris la méthode et le déroulement, comment on va procéder. Et après, dans un second temps, elles voient le médecin dans le cabinet pour la consultation.
Pourquoi la réunion de groupe?
Ben, y a des femmes parmi le groupe qui ont déjà fait des avortements médicamenteux ou qui reviennent pour un contrôle de la méthode 15 jours après et du coup qui peuvent faire partager leur expérience. Elles peuvent se questionner et même parfois le faire ensemble aussi à domicile.
Moyenne d'âge des gens qui viennent vous voir?
Surtout la tranche d'âge 24-35. Une femme de 30 ans viendra pour sa contraception par exemple parce qu'aucun gynécologue n'a voulu lui poser un stérilet. Un dispositif intra-utérin, et au bout de 5 ou 6 appels, elle appelle le planning en dernier recours et on lui dit « venez, on va vous le poser ».
Ça voilà. Arrive encore, un gynécologue qui ne veut pas poser un stérilet?
Ça arrive souvent, tout comme l'implant, où on refuse de le retirer parce qu'on ne l'a pas posé.
Pourquoi ils ne veulent pas poser de stérilet, par exemple?
Il y a toujours encore, pour certains gynécologues, alors j'espère que ce sont les plus anciens, qui ne posent pas des stérilets aux nullipares, aux femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. Donc il y a toujours cette idée qui est encore là, voilà, où si on n'a pas de partenaire fixe ou qu'on n'est pas marié, il y a encore ça, donc on ne va pas s'autoriser à le poser, le stérilet.
Et donc vous, dans ces cas-là, vous le posez?
On le pose parce que les femmes ne se mettent pas en danger, on pense qu'elles peuvent réfléchir, que si elles n'ont pas de partenaire fixe et elles ont le droit, elles mettent quand même des préservatifs et elles se protègent. Donc voilà, on fait confiance aux femmes dans ce qu'elles nous disent.
C'est souvent des gens qui ont des difficultés aussi d'argent qui viennent en particulier, ou culturellement, qui ont plus de difficultés ou pas? Le profil sociologique des gens qui viennent vous voir?
Ça va être... alors il y a plusieurs profils. Ça peut être quand on arrive entre 18 et 22 ans, qu'on est entre deux sécurités sociales, mais encore un peu chez ses parents. Et donc là, on veut un anonymat pour venir chez nous. Donc il y a ces jeunes majeurs.
Qui veulent pas que les parents sachent ce qu'elles font.
Voilà, c'est ça. Après, il y a besoin d'anonymat pour toutes les femmes ayant droit de leur conjoint, qui veulent que ça reste aussi anonyme. L'avortement peut rester anonyme pour ces femmes. Et puis voilà, il y a les femmes qui sont victimes de violences conjugales, qu'on reçoit également beaucoup. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est gratuit et anonyme. Et les femmes qui n'ont pas de papier. Dans les hôpitaux, on demande une pièce d'identité avec photo, ce qui est une difficulté d'accès. Donc, elles passent par chez nous. Voilà. Ce qui amène aussi les femmes à consulter ici, c'est qu'il y a beaucoup de dépassements d'honoraires en ville et que, du coup, une consultation par une sage-femme ou un gynécologue, on va la faire payer 23 euros ici, alors qu'en ville, des fois, elle paye 60 euros. Et donc, des fois, c'est ça qui peut les empêcher d'aller à l'extérieur.
Alors Louise, vous avez quel âge ?
26 ans.
Vous avez appris quand vous étiez enceinte ?
Il y a une bonne semaine, 10 jours. Pour moi c'était tellement irréaliste parce que on n'a pas été jusqu'au bout en plus. Donc pour moi c'était vraiment pas possible que le test y soit positif.
Vous prenez pas de contraception ?
Non, je l'avais arrêté il y a pas longtemps. C'est pas le moment parce que je suis pas en couple et puis... Même financièrement, j'avais pas envie d'assumer ça. Je commençais à mettre de côté pour me faire plaisir avec un voyage ou des choses comme ça. Alors non, franchement, non. Et puis même, j'ai jamais eu de désir d'enfant.
Vous êtes pas sûre d'en vouloir?
Bah pour le moment, j'en veux pas, c'est tout. Enfin, c'est comme ça, je me sens pas être mère ni rien.
Il est au courant
où je lui ai dit.
Le papa
Le géniteur
Je lui ai dit après, j'ai dit bon, je dois t'en parler parce qu'avec les calculs, ça peut être que toi. Et il m'a dit bah bon courage, tout ça.
Il va vous accompagner dans la démarche d'IVG?
Non. Enfin, il me soutient, il. Mais c'est tout, enfin, j'ai pas besoin de lui, de toute façon, c'est moi que ça concerne.
Bah, ça le concerne un peu quand même.
C'est mon corps. C'est mon corps, il aurait voulu le garder, j'aurais dit, bah écoute, ça me fait une belle jambe, enfin, c'est moi qui l'aurais porté pendant 9 mois, et après j'en veux pas, qu'est-ce que j'en fais?
Il sera là dimanche avec vous?
Non.
Vous lui avez pas demandé ou il veut pas?
Je lui ai pas demandé, je lui ai dit que j'allais faire ça cette semaine, et je lui ai dit pour aujourd'hui, mais il a pas réagi, donc tant pis, hein.
Vous apprenez il y a quelques jours que vous êtes enceinte. Votre première démarche, c'est d'appeler un médecin.
Aussitôt, j'ai appelé le planning. J'avais préparé l'adresse.
Comment et
le numéro de téléphone. Bah, ça fait un moment que je connais. Je sais plus comment j'ai connu, c'est bouche à oreille. Mais pour moi, c'est évident que j'allais m'adresser à eux, parce que j'ai pas envie d'aller voir un médecin que je connais pas, parce que je suis pas de la région d'origine, qui m'aurait infantilisé ou quoi, qui m'aurait dit t'es sûr, alors que là, il y a vraiment une écoute, franchement, c'était bien.
Votre famille, elle est au courant?
Non.
C'est-à-dire, vos parents, ils réagiraient mal?
Je pense pas, mais je veux pas les inquiéter. J'ai pas envie de les juger, j'ai pas envie qu'ils s'inquiètent. Tant je sais qu'ils m'auraient soutenu, hein. Mais non, j'ai pas envie. Plus tard, je leur raconterai.
Marie, 26 ans.
Alors, qu'est-ce qui se passe? C'était pas prévu au programme? C'est une aventure d'un soir?
Oui, c'était pas planifié. Ça fait pas longtemps que je suis avec mon ami. Ça fait un an et demi. On n'a pas forcément comme projet d'avoir un enfant. C'est pas la priorité. Et oui, c'était plus un accident de parcours.
D'accord. Vous êtes sous contraceptif?
Non.
Pourquoi?
Nocivité de la pilule.
Vous le vivez comment?
Bah, c'est quelque chose de bête et... Voilà, on s'en veut un peu parce qu'on se dit que c'est quand même une vie au final, donc c'est l'avortement où on veut quand on veut, mais moi je l'ai pas évité, je l'ai fait bêtement et de façon irresponsable, et aujourd'hui bah, je suis là.
C'est la première fois que vous avortez?
C'est la deuxième.
La première fois c'était pareil, plus de pilule?
Non, oui. La première fois c'était pilule et ça m'est quand même arrivé. Bon, la première c'était je voulais m'en débarrasser et puis voilà, on n'en parle plus. La deuxième fois, bah, on se dit bah c'est la deuxième. Ça a plus de conséquences, on se rend compte que bah, c'est quand même la deuxième fois, qu'on va repasser par là. C'est pas pareil.
Pourquoi le planning familial?
Je le connaissais déjà. Quand bah, j'ai fait mon premier avortement, c'était pareil au planning familial. Et bah, c'est une association, on sait que ce sont des femmes qui sont là-bas, qui tiennent aussi cette association.
C'est important les médecins, que ce soit des femmes?
Oui, c'est important, ouais. Parce qu'elles comprennent en général, et puis elles militent justement pour l'IVG. Les médecins, ils ont tous leur avis. Ils sont pas forcément tout le temps pour, donc et puis oui, on préfère se fier à une association où on sait que là il y aura une écoute, une attention particulière.
Vous venez là parce que vous voulez pas être jugée en fait.
Voilà.
Parce qu'on se sent déjà fragile et que c'est pas la peine d'en rajouter.
Voilà, on n'a pas envie d'avoir des commentaires, des réflexions. Ouais. On a envie de passer à autre chose rapidement aussi et puis aussi connaître ben, les expériences des unes et des autres, c'est toujours agréable aussi.
Merci.
Je vous en prie.
Et bon courage.
Merci.
Il sera là, votre compagnon?
Oui.
Ouais, il sera là.
Ouais, il assume.
Exactement. Merci beaucoup. Hein. Eliane, c'est votre salle de consultation, ça? Vous faites quoi ici? Auscultation et puis échographie?
En règle générale, quand je vois les femmes ici, c'est pour prendre des comprimés. Je discute avec elles, je leur demande ce qu'elles veulent pour la douleur, je leur demande ce qu'elles veulent pour contraception, si elles vont bien, si elles n'ont pas de problèmes de santé.
Vous avez du matériel d'échographie quand même, vous
faites? Et j'ai un échographe. En général, ils ont une échographie avant de venir le matin là. Mais de temps en temps, il y en a qui... on voyait rien, donc on le refait.
Eliane, vous avez quel âge ?
66 ans.
C'est facile pour une femme d'avorter, de faire des choix ?
Bah, c'est nettement plus facile qu'avant la loi de 75. Enfin, c'est certain. Moi, j'ai connu, pendant mes études de médecine, les complications de l'avortement. C'était une question de cours. On a connu des périodes où les gens mouraient suite à des avortements clandestins, étaient stériles, étaient... Moi, j'ai fait mes études, enfin mon stage de gynéco, chez un gynéco hospitalier qui enlevait toutes les pilules et qui enlevait tous les stériles aux femmes qui arrivaient.
En quelle année ?
74, ouais, je dirais.
Il voulait pas ?
C'est-à-dire, il était, c'est un intégriste, il avait 6 enfants. C'était un prototype du gynéco, comme on en voyait beaucoup à l'époque encore. Hein.
Aujourd'hui, il y a encore des blocages ?
C'est assez sournois, hein. Je veux dire, quand vous voyez des jeunes femmes dire « le pharmacien n'a pas voulu ou m'a dit « non, tu prends pas la pilule du lendemain une deuxième fois parce que ça pourrait te rendre stérile, etc. » Ça continue. C'est des pharmaciens, c'est des gens qui ont été formés, mais c'est quand même assez fréquent.
Il y a un thème récurrent chez les jeunes femmes qu'on a croisées, c'est qu'elles n'ont plus envie de prendre de pilules parce que c'est des hormones, c'est mauvais pour la santé. Ça ferait bondir nos mères qui se sont battues pour la contraception.
D'abord, il y a ce que vous dites. Je crois qu'au moment où on s'est battu, évidemment, pour eux, la contraception, c'était formidable. Mais je ne sais pas si vous voyez, par exemple, les bandes dessinées de Bretéché quelques années après, où elles parlent très bien des filles qui disent à leur mère, mais tu veux nous faire avaler des produits chimiques, mais ça va pas, etc. Il y a une génération suffit pour que on voit autrement ce qui a été une conquête.
Bon, ben il y a pas de thé, c'est dommage. C'est vrai? Souvent dans des situations de violence, hein, on est obligé de compenser, donc il y a toujours des gâteaux qui traînent.
Pourquoi des situations de violence ?
Parce que la violence tue une femme tous les deux jours et demi en France, faut le savoir.
Vous envoyez beaucoup des femmes violentées ici ?
Oui, à chaque séance. Je savais avant que ça existait, mais ça restait quelque chose de... Je voyais comme beaucoup de personnes qui disent c'est le 9-3 uniquement, certains départements qui sont concernés, certains milieux défavorisés. J'ai découvert que c'était absolument partout. Et que dans le 16e Chicot, on se fout sur la gueule comme c'est pas permis.
Vous en avez vu ?
Oui, bien sûr. Mais si je vous parle, c'est d'expérience, c'est pas des trucs que j'invente. Et c'est chaque fois, au détour d'une phrase, au cours d'un entretien, on vient simplement pour un renouvellement de pilule. On parle un peu et on découvre le quotidien qui peut être une horreur.
Donc quoi, une femme battue, violée
qui a une vie avec son conjoint qui est absolument épouvantable parce qu'elle est harcelée de mille et une manières.
Alors Chantal, vous avez quel âge et depuis quand vous êtes bénévole au planning ?
J'ai 67 ans et je suis au planning depuis 6-7 ans à peu près.
Alors, est-ce que vous avez toujours été militante et pourquoi vous l'êtes devenue au planning il y a 7 ans ?
Pourquoi je suis venue au planning ? Ben, j'y suis venue pour militer, mais je pense que le planning avant et maintenant n'est pas tout à fait le même et qu'on ne s'occupe pas forcément des mêmes questions. Certes, moi, je tiens à ce qui est toujours le droit à l'avortement. C'est vrai que ça a été un combat jusqu'en 1974. Maintenant, quand même, un petit peu moins. Même s'il faut se battre, ne serait-ce que pour faire en sorte qu'on dépasse les 14 semaines de délai. On a des collègues en Hollande qui vont jusqu'à 22. On pourrait faire au moins aussi bien, hein, qu'on est au moins aussi doué qu'eux.
Donc l'idée, c'est que rien n'est jamais acquis.
Non. J'ai toujours été consciente qu'il pouvait y avoir des retours en arrière. Il faut savoir que Marion Maréchal Le Pen rêve, ainsi que toute l'extrême droite, et même d'ailleurs des gens de droite, et peut-être même certaines personnes de gauche d'ailleurs, que bon, quand même, l'avortement, si on pouvait éviter ce genre de choses, ce serait pas si mal dans le paysage. C'est quand même, à mon avis, une menace qui existe. Et j'ai donc été toujours très consciente de cela, et c'est pour ça que je me suis dit, ma fille et les filles et ses copines, attention, attention au retour de bâton. La menace est là toujours.
C'est pour vous ? Alors, un moment, je vous prie. Oui, vous avez besoin de quoi ?
J'avais besoin d'un papier de justification pour mon lycée.
Oui, bien sûr.
Alors là, on est devant une affiche, Mouvement français pour le planning familial. Un enfant, si je veux, quand je veux. Il y en a quelques-unes comme ça, un peu historiques partout dans vos bureaux. Mmh. Mais un enfant, si je veux, quand je veux, c'est quand même un slogan qu'on connaît bien. Mmh. Elle date de quand, cette affiche ?
Post-68, dans les années 70. J'avais 10 ans et je m'en souviens. C'est quelque chose que je voyais à la maison et j'ai été le bébé Mlac. Donc voilà, c'est pas par hasard que je suis au planning aujourd'hui. Donc oui, à 56 ans aujourd'hui, je trouve que cette phrase, elle est encore tellement vraie et il faut encore la porter. Parce que c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a eu des tentatives de retour à l'ordre moral. Certains voudraient qu'on perde ce droit d'avoir un enfant que lorsque nous le voulons et si nous le voulons.
Il date de quand ce retour à l'ordre moral ?
Il est latent. Il est latent, on arrivait à le contenir, et puis à des moments, c'est comme les résultats des élections. Ça monte et ça redescend. Et les femmes sont toujours les premières à payer le prix fort des retours, des grands problèmes dans les sociétés. Donc je crois qu'il faut être très vigilant. Il y a aussi les retours, la perte de la laïcité, le retour des religions. Tout ça affecte toutes les religions monothéistes, ne sont pas pour la liberté des femmes. Que ce soit à confession où les femmes devaient, à une certaine époque, confesser un plaisir sexuel. Aujourd'hui, c'est d'autres choses, mais ça revient au même. On essaye de contrôler la sexualité des femmes et si on pouvait leur imposer des enfants, éventuellement le retour à la maison, ce serait parfait pour un certain nombre. C'est ce que nous ne voulons pas. Quand Madame Boutin se prononçait contre la contraception d'urgence, c'était déjà un retour à l'ordre moral. Elle s'était offusquée que Ségolène Royal fasse passer cette loi sur la contraception d'urgence disponible dans les lycées auprès de l'infirmière scolaire. Pas de n'importe qui, hein, d'une infirmière scolaire. Ça la choquait déjà.
Dernier retour à l'ordre moral, là, en date, c'est...
C'est le boulet de canon au moment des régionales et lorsque Marion Maréchal Le Pen aurait voulu supprimer les subventions du planning, c'est-à-dire faire mourir le planning, faire mourir l'association qui date de 1956. Elle voulait tuer une vieille dame.
L'été dernier, il y a trois jeunes garçons qui se sont introduits dans nos locaux. Comme on les a mis dehors, ils se sont mis à prier devant, à genoux sur le trottoir devant l'entrée de la rue Vivienne. Alors c'est drôle, hein, ça paraît rigolo, mais en fait c'est pas dramatique, mais c'est insupportable pour les femmes de voir ces jeunes les empêcher de vouloir faire ce qu'elles veulent, quoi.
Le planning familial a des problèmes financiers aujourd'hui. Est-ce que ça met en péril sa survie et est-ce que les attaques qui se sont multipliées ces dernières semaines vous inquiètent ?
Ben moi, je pense que oui, il faut être inquiet parce que en France, il y a des associations départementales qui sont en danger. Et si on leur supprime les financements régionaux, il n'y a pas que les gens du Front National, hein, qui ont dit que il y a des départements où il n'y a pas de subvention.
Parce que c'est un choix politique.
C'est un choix politique de la mairie, du département et de la région.
Pourquoi vous êtes venue au planning familial de Paris ?
Parce que, en fait, moi j'ai des enfants, et des filles en particulier, et c'était au moment où elles étaient adolescentes, et où moi je pensais que, naïvement, tout était acquis, tout avait été fait par nos générations de femmes, et que maintenant il n'y avait plus de problème d'accès aux informations, à la contraception, à l'IVG. Et en fait, je me suis aperçue que ce n'était pas du tout le cas, que les copines de mes filles, elles revenaient avec des idées incroyables, de fausses informations.
Et vous entendiez quoi ?
Et j'entendais, faut pas mettre de tampon parce qu'on va perdre sa virginité, la pilule ça rend stérile.
Vous, comment c'était quand vous étiez collégienne ?
Bah, moi, en fait, quand j'étais au lycée, j'étais dans une école privée de religieuses, donc forcément que j'avais pas les bonnes informations, mais... En fait, on ne croyait pas ce qu'on nous racontait. On avait les vraies informations, on arrivait à se les procurer. Donc j'avais vraiment l'impression qu'on était quand même informés. Alors que maintenant, il y a beaucoup plus d'informations partout. mais il y a aussi plein de fausses informations sur Internet. Et après, il faut savoir se saisir de la bonne information, quoi. C'est ça qui est compliqué.
Et ça vous a fait peur, ce que disaient ces adolescentes ?
Ouais, ça m'a fait peur. Je me suis dit que c'était pas possible qu'au XXIe siècle, on ait encore des idées aussi rétrogrades. Que certains profs, même certains profs dans un collège public, aient des propos très très limites concernant la contraception et l'IVG. Par exemple, que la pilule, ça rend stérile.
Vos filles l'ont entendu, ça ?
Ouais, en cours. Hein.
Depuis 15 ans, l'éducation sexuelle en milieu scolaire est une obligation légale. Dans les écoles, les collèges et les lycées, plusieurs séances annuelles sont préconisées. Pour les dispenser, certains établissements font appel directement au planning. C'est le cas du lycée professionnel Jacques Monod à Paris. À la demande de l'infirmière scolaire, Cécile et Nathalie viennent pendant une heure parler des missions du planning, mais aussi de la sexualité en général à une classe de première. Une classe composée pour l'essentiel de filles entre 16 et 18 ans. Après quelques ricanements gênés au départ, les jeunes filles participent assez vite. Contraception, IVG, mais aussi harcèlement dans les transports, viol, mariage forcé. On parle de tout et on donne son avis, car Cécile et Nathalie sont d'abord des militantes.
Nous allons nous présenter.
Moi, je m'appelle Cécile, je suis animatrice au planning familial.
Alors bonjour, je suis Nathalie Marinier et je suis animatrice au planning familial. Et on voulait vous demander en premier lieu et en première question, est-ce que vous savez qui nous sommes et ce que l'on peut venir faire avec nous dans nos locaux, qui sont tout près de chez vous, 10 rue Vivienne ?
Oui.
Bah, si on est enceinte.
Oui, c'est-à-dire, ça prend quelle forme, regarder si on est enceinte ?
Bah, faire une prise de sang.
La prise de sang, on vous la prescrira, on ne prélève pas chez nous, mais qu'est-ce qu'on peut faire chez nous plus rapidement ?
Un test de grossesse ?
Oui, un test de grossesse sur les urines, tout à fait. Et on fait un test de grossesse dans quelles circonstances ? On ne se lève pas un matin en se disant « je vais en planning pour faire un test ».
Bah, quand on a eu des rapports sexuels, oui. Non protégés.
Oui, il y a quelque chose qui se passe juste avant ? Il y a une absence de quelque chose ?
Ah, des règles !
Ah bah oui, c'est bien, c'est le premier signe généralement, oui. C'est une absence de règles. Voilà. Et on commence à faire un test par urine, en effet, lorsqu'il y a une absence de règles. Alors, je ne sais pas, on va essayer de faire une devinette. Si on ne veut pas avoir de soucis, de retard de règles, pas d'angoisse d'avoir une grossesse...
Ils peuvent nous prescrire la pilule.
Par exemple, en tout cas un moyen de contraception. Pas forcément la pilule.
Les implants.
Les implants, vous en connaissez d'autres ?
Les stérilets.
Stérilets, oui. Dispositif intra-utérin, oui. Le patch.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'ovulation ? C'est la semaine où on peut être enceinte, c'est ça ? C'est en fait, les femmes ont produit tous les mois un ovule. Ce qui fait effectivement que si cet ovule y rencontre un spermatozoïde, ça peut créer une grossesse. Et du coup, si c'est avec cette ovulation qu'on peut être enceinte, qu'est-ce que la pilule ou les autres hormones, elles peuvent faire pour pas qu'on soit enceinte ? Elle va agir sur l'ovulation.
C'est pour ça qu'en cas d'oubli de plus de 12 heures, on risque une grossesse. Donc tout oubli de pilule peut conduire à une grossesse. Et c'est en particulier un grand nombre des demandes d'IVG qui viennent au planning. IVG, vous savez ce que ça veut dire ? Interruption ?
Volontaire de grossesse.
Voilà. Et quoi d'autre ? À quel moment on se dit « Oh là, je relève peut-être de la contraception d'urgence ?» À part l'oubli de pilule.
Ça reste toujours un tabou chez nous. Enfin, surtout, on est dans une classe de filles. Tout ce qui est rapport au sexe, même chez nous, c'est aussi un tabou. Donc, ouais, on a du mal à en parler à l'école aussi, c'est pour ça.
Mais quand vous dites chez vous, c'est à la maison ?
Ouais. On peut pas parler de sexe. Chez nous, la virginité, ça doit suivre jusqu'au mariage.
Donc, il y a un pan de votre vie que vos parents connaissent pas ou vous respectez les interdits ?
Je respecte les interdits. Enfin, c'est pas que je les respecte, mais au final, les interdits, c'est devenu... J'ai grandi comme ça, du coup, c'est pas un interdit, c'est devenu normal. Ça me gêne pas de garder ma virginité jusqu'au mariage, c'est pas un tabou. Enfin, j'essaye de toujours faire en sorte de pas mettre dans des situations où je sais que je pourrais céder.
On a parlé mariage forcé, excision, c'est des thèmes qui vous parlent ou c'est lointain ?
Ouais, c'est des thèmes qui me parlent.
dans la famille proche, j'ai eu des excisions, des mariages forcés.
Vous avez peur pour vous-même ?
Non.
Non ?
Non, j'ai pas peur.
Et vos parents, ils en pensent quoi ?
Ma mère, elle pense que ça sert à rien de se marier forcé avec quelqu'un. C'est pas elle qui va partager la vie de la personne, c'est moi qui vais partager. Elle voudrait pas, elle va pas m'imposer de me marier avec quelqu'un.
Et votre papa, il est sur la même ligne ?
Ce serait plus compliqué. Il m'impose pas, mais il me guide vers un choix, en fait.
Oui, il tente quand même un petit peu.
Mais si je dis non, c'est non.
Alors, quoi d'autre au planning ? Il y a des affiches de prévention, par exemple, contre les mariages forcés, contre l'excision. Est-ce que ce sont des mots qui vous sont connus, ça ? Oui, qu'est-ce que ça veut dire, l'excision ?
C'est une ablation du clitoris.
Oui, et ça se fait
En Afrique, souvent.
Alors, pas qu'en Afrique.
Ah, oups, j'ai dit souvent.
Souvent, oui, oui. Mais c'est vrai qu'on mêle souvent l'Afrique à l'excision. Malheureusement, c'est très répandu sur la planète, y compris en Inde, par exemple, en Asie. Alors, c'est l'ablation du clitoris. Et à votre avis, c'était pourquoi à l'époque, même si ça se pratique encore d'ailleurs?
Pour enlever le plaisir de la femme.
Oui, pour enlever le plaisir de la femme. Pourquoi ils faisaient ça? Pourquoi la femme ne doit pas avoir plaisir?
Pourquoi qu'elle soit volage et qu'elle aille d'homme en homme?
Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles, vous?
C'est une mutilation.
Oui, c'est une mutilation, tout à fait. Le mariage forcé, ça vous cause ? Est-ce que parmi vous, il y a des jeunes filles qui pourraient être concernées ou des proches qui pourraient l'être ? Comment on refuse ?
On dit qu'on veut pas.
On dit qu'on veut pas. Ça marche ?
Ça suffit pas parce qu'il y a la pression qui est mise sur les parents, plus la pression qui est mise sur la personne. C'est compliqué.
Oui. Les garçons, vous avez quand même compris que planning, c'est planning familial, pas féminin. C'est aussi les garçons qui ont le droit de se déplacer au planning familial. Vous en avez au moins compris ça ?
Ouais. En tout cas, vous pouvez y amener vos copines. Vous pouvez venir avec vos copines. Nous, on n'a pas de copines. Mais ça viendra bien un jour.
Copines ou copains, d'ailleurs.
Copains, oui, après tout, je ne vais pas faire... T'as mis le doigt dessus, toi. Eh bien, vas-y, maintenant.
Est-ce que vous les avez sentis réceptifs, là ? Parce qu'ils étaient un peu silencieux, un peu gênés, peut-être ?
Oui, parce que le sujet n'est pas facile, donc ils sont gênés. Vous avez vu comment la résonance du mariage forcé, de l'excision, ça a été quand même... ça a fait écho. Enfin, on parlait de choses que ces jeunes filles connaissaient. Et connaissaient proches. Alors, on ne dit pas « moi, je » dans ce cas-là, mais on dit « ma cousine ». Voilà. Donc, oui, je trouve... Mais je les ai trouvées très actives dans l'écoute. C'est-à-dire même ceux qui n'ont pas rien dit, écoutaient.
Nathalie, ces interventions, vous en faites beaucoup chaque semaine dans beaucoup d'établissements ?
Alors, pas moi, mais en tout cas le planning, oui. Pendant les périodes scolaires, nous en faisons à peu près 2 à 3 par semaine. Généralement, c'est l'infirmière, le professeur des SVT qui sollicite l'avenue du planning dans le cadre des heures d'éducation à la vie. Quelquefois, c'est en effet un petit peu compliqué, mais on y arrive toujours plus ou moins.
Et qu'est-ce qui ressort souvent, finalement ?
Alors, je ne sais pas pour eux ou pour elles, puisqu'il y avait beaucoup de filles, mais en tout cas pour moi, c'est qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup d'informations encore à leur donner, des jeunes filles de 16 ans qui n'ont pas d'idée du cycle, hein, du phénomène du cycle menstruel, énormément d'informations quand même qui ne sont pas acquises par elles, donc c'est compliqué après de savoir comment prendre sa pilule, bien la prendre, quand on n'a pas au moins la base de comment je fonctionne. Bon, il y a la peur des parents, je crois qu'il faudrait travailler avec les parents, je crois que ces animations, elles auraient aussi un sens de faire participer d'une certaine manière les parents. Quelquefois, les parents refusent que les jeunes assistent à ces animations. Il y a un absentéisme, quelquefois, quand l'établissement dit « le planning vient tel jour », on voit un certain absentéisme. Donc, je pense qu'il faudrait aussi travailler avec les parents et leur dire que plus ils parleront à leurs jeunes et moins ces jeunes s'exposeront à des risques. Informer les jeunes, c'est pas les inciter. On confond information, incitation.
Est-ce que parfois, derrière les interventions, des jeunes filles viennent vous voir, vous attrapent par le bras et vous disent « j'ai quelque chose à vous raconter »
Alors ça arrive parfois en fin d'animation que des jeunes restent exprès dans la salle, traînent un peu et viennent vers nous. C'est généralement pour nous demander très concrètement vis-à-vis de ce qu'elles vivent, quelque chose de très précis. La dernière fois que nous l'avons fait, c'était une petite fille qui, dans un établissement scolaire parisien, subissait des attouchements de son grand-père.
Changement de décor, nous voilà à Orléans, dans le vieil hôpital, au centre-ville. Ici, depuis 4 ans, Sarah reçoit, une fois par mois, une dizaine de femmes séropositives pour un déjeuner en groupe. Elles sont souvent originaires d'Afrique subsaharienne, jeunes ou moins jeunes, certaines viennent d'arriver en France. Elles ont fui la guerre dans leur pays, contentes d'être en vie, mais contaminées, pour la plupart, par un mari qui se savait malade et qui ne leur a pas dit. Aujourd'hui, elles vivent dans la honte, leur communauté les rejette. La mission de Sarah, c'est de leur rendre leur fierté et de leur offrir, via le planning, un espace pour s'émanciper.
Le rôle, un petit peu, c'est de rompre l'isolement, puisque beaucoup de femmes sont dans le secret de leur séropositivité, elles portent ça. C'est impossible pour elles de dire qu'elles sont séropositives. Les femmes séropositives sont quand même très invisibles et très mises en situation de vulnérabilité par rapport à plein de choses.
Il n'y a pas des associations sur le VIH qui s'occupent de ces femmes séropositives ?
Alors il y en a quelques-unes, mais qui sont très communautaires. Et les femmes ne se retrouvaient pas dans les associations de lutte contre le sida. Pas toutes les femmes en tout cas. Il y a des super mouvements concernant le VIH, mais il y a beaucoup d'hommes ayant des relations avec des hommes, ce qui est très très bien, sauf que les femmes ne s'y retrouvaient pas forcément. La séropositivité était prise en compte, mais pas le fait qu'elle soit femme et séropositive. Moi je m'appelle Sarah Durocher, je vais avoir 30 ans cette année, j'ai 29 ans encore. Donc je suis bénévole et salariée au planning familial d'Orléans depuis 12 ans. Je le dis et je l'assume complètement, je me présente en tant que féministe, hein. Mais je me retrouve pas tout le temps dans tous les discours, c'est pas si simple que ça. En fait, moi j'ai un souci avec le féminisme, c'est que les féministes, c'est tout le temps des femmes d'une certaine classe sociale, blanches, et c'est ce qui m'énerve un petit peu. C'est-à-dire que quand les féministes parlent des femmes qui sont mises en situation de précarité ou quoi, souvent il y en a qui n'en ont jamais rencontré. Moi, je suis féministe au planning parce que nous, on rencontre les personnes. Des fois, moi, je porte leurs paroles parce qu'elles n'ont pas la place dans la société pour la porter. Mais moi, mon objectif, c'est d'amener les femmes à être actrices de ça. Et à un moment donné, qu'elles-mêmes s'emparent des médias, s'emparent des structures, enfin, qu'elles se fassent une place, quoi. Le planning, on est quand même encore visibilisé sur contraception IVG. On a un peu de mal à s'en défaire. On voit que ça a du mal. Et la question du VIH, on a eu un peu de retard à s'y mettre. On a eu, je pense, la victoire. Enfin, elles ont eu la victoire de la contraception et de l'avortement. Et là, il y a le VIH qui est arrivé derrière. Et du coup, il n'y a pas eu de prise en compte de cette spécificité-là. Enfin, pas de toutes, mais de beaucoup, en tout cas. Il y avait des personnes de 60 ans qui n'avaient jamais vécu dans leur sexualité la question du VIH. C'était pas un problème. Moi, je suis née avec le risque du VIH. Enfin, je suis née avec une capote dans la main, quasiment. Je suis née en 86. Du coup, ma sexualité, elle a débuté avec cette crainte-là.
Et donc, il manquait une génération relais entre les plus âgés et les plus jeunes pour tenir compte du risque VIH.
Je pense, oui. Qui commence, du coup ?
Moi, je suis Marie-Laure. Mes parents ne sont pas au courant. Pour protéger ma famille, j'étais obligée de me taire et puis... Parce que j'étais voilée de honte.
Il faut avoir un courage énorme pour le dévoiler. Parce qu'on se dit, la femme, une femme malade du VIH, c'est qu'elle est... Elle est tout ce qui est mauvais, quoi.
Au début, j'ai perdu même l'espoir. J'ai perdu l'envie de vivre. Mais maintenant, ça va. Je suis en train de revenir et j'ai envie de vivre. J'ai envie de boire comme des
autres. J'ai envie de faire l'amour. J'ai envie de me coiffer. Avant, je ne pouvais même pas me mirer. Hein.
Maintenant, je peux.
Patricia, je suis d'origine camerounaise, j'ai 38 ans, je suis séropositive, ça va faire 17 ans.
Comment vous l'avez su et peut-être comment vous l'avez attrapé ?
J'étais à l'époque, j'avais mon fiancé au Cameroun et je finissais mes études ici, je devais rentrer. Et il est venu ici pour qu'on prépare le mariage. Il avait été infecté au Cameroun. Donc, c'est comme ça que j'ai été infectée. Et puis,
Vous pensez que votre compagnon savait qu'il était lui-même infecté ?
Oui, il savait.
Qu'est-ce que vous trouvez à ces groupes de parole, en fait ? En quoi c'est important ?
Ça permet vraiment de rompre la solitude par rapport à la maladie. Par exemple, moi, ma séropositivité a été bien acceptée par ma famille. Mais il y a un voile, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais et je ne veux pas mettre ma famille mal à l'aise.
Mais et alors, qu'est-ce que vous ne trouvez pas dans votre famille que vous trouvez ici ?
Bah c'est ça, je peux parler, je peux échanger, je peux pleurer, je peux rigoler. On parle de tout et sans tabou, sans se dire que bon... Et puis, on sent de l'empathie.
On a vu tout à l'heure, vous évoquiez l'hygiène intime.
Oui.
Apparemment, Sarah, elle vous dit des choses, on ne vous a pas du tout appris la même chose que depuis que vous êtes toute jeune.
Non, ah, c'est dingue, on apprend tous les jours. Moi, je sais que très tôt, c'est même pas ma mère qui me l'a appris, c'est ma tante. Elle m'a dit, une femme doit être tout propre, très propre.
Ce qui suppose quoi ?
Supposer vraiment faire la toilette intime, rentrer le doigt dans le vagin, nettoyer à jet d'eau.
Tous les jours ?
Tous les jours, au moins deux fois par jour.
D'accord. Et là, c'est le planning qui vous a dit, au contraire, à laver comme ça, vous risquez d'introduire des bactéries.
Des bactéries, oui, oui, oui. Les femmes plus que toi, souvent, c'est des femmes qui travaillent. L'homme ne travaille pas forcément. C'est la femme qui fait tout. Et l'homme se permet de lui taper dessus, de gueuler, oui. Malheureusement, on en est là.
Alors aujourd'hui, vous avez envie de devenir militante hein, du planning et pas seulement visiteuse. Pourquoi ? C'est parce que vous êtes de culture africaine. Vous pensez que dans cette communauté, il y a beaucoup de travail ?
Oui, il y a beaucoup de travail. Les femmes ont besoin de s'approprier certaines choses. Il faut que ça parte d'elles-mêmes. On a tendance à attendre que les choses se fassent. Il faut que ça vienne de nous.
C'était Le Planning, 60 ans de la vie d'une femme, un reportage de Véronique Julia, prise de son Jean-Pierre Pernel et François Rivalan, mixage Alain Joubert. David Jakubowiec a réalisé cette émission avec l'aide de Zora Bensmaili et Stéphane Combe. Je vous souhaite une excellente journée.